Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle édition du JDA, l'actualité vue par les auditeurs d'Africa Radio. Ce mardi, dans le journal des auditeurs, nous revenons sur la gestion des ressources naturelles et pétrolières au Sénégal. Les révélations de la BBC sur les conflits d'intérêts, les pots de vin qu'aurait perçu le frère du président Macky Sall, Aliou Sall, continuent de faire du bruit au Sénégal. Vendredi, la plateforme Arlene Oubok avait appelé une marche pour demander davantage de transparence. Alors qu'en pensez-vous? La gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal est-elle devenue un enjeu politique? Nous en parlerons par téléphone avec Issiaka Barry. Il est justement membre de cette plateforme. Arlene Oubok, pour participer, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur le WhatsApp d'Africa Radio. Le numéro, c'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Je lirai aux commentaires pour enrichir le débat durant l'émission. Mais avant cela, place sans plus tarder aux répondeurs d'Africa Radio et aux messages que vous nous avez laissés.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour. Je voudrais répondre au Malien qui, hier, a tenté de faire un faux parallèle entre démocratie et corruption. Premièrement, les régimes d'ATT et d'Alpha ont été les moins corrompus du Mali depuis 1960. Deuxièmement, Moussa Traoré est le seul président malien à avoir été condamné à mort pour corruption. Et c'est d'ailleurs ATT qui sauva sa vie en le graciant. Troisièmement, ATT avait un vieil avion d'occasion. Et quand Ibeka est venu, il a acheté un avion coûteux qui est un véritable appartement volant avec des chambres, des bars et des douches. Quatrièmement, ATT vit actuellement à Dakar. Et à chaque fois qu'il emprunte un taxi, s'il veut payer, le taximan lui dit « Vous êtes Amadou Toumani Touré ?» Il dit « Oui ». Il dit « Vous, vous ne payez pas ». Cinquièmement, les statistiques de l'ONU sont implacables à ce sujet. Les 15 pays les moins corrompus du monde sont aussi les 15 pays les plus démocratiques du monde. Merci.
Bonjour Africa Radio, bonjour tous les auditeurs. Brice, je voulais faire une remarque concernant les États-Unis qui réitèrent encore leur... si on peut appeler ça des mensonges d'État. En tout cas, bon, ils ont décidé de s'en prendre à un autre pays depuis un moment. De toute façon, ils l'ont annoncé depuis longtemps. Et comme par hasard, au moment où monsieur le président américain a besoin de trouver un prétexte pour pouvoir agresser un pays, et d'ailleurs, ils ne le feront jamais tout seuls, puisque depuis longtemps, ils sont toujours accompagnés de pays dits de coalition. Donc là, ils s'inventent des prétextes contre l'Iran, encore un pays moyennement ou plus développé. Et visiblement, ça gêne ces pays occidentaux que des pays se développent. Et à chaque fois, c'est des pays moyennement ou bien développés qui sont attaqués, détruits, ramenés à 100 ans en arrière. Donc voilà, nous voyons venir le loup qui veut se trouver une victime et qui va s'inventer des histoires, soutenues par les médias, bien entendu, qui vont à chaque fois valider leur dire sans jamais aller vérifier. Et bizarrement, la partie adverse n'a jamais le droit à la parole pour essayer de se défendre. Donc voilà, on constate encore les agresseurs mondiaux à la manœuvre. Allez, Brice, salut.
Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio. Bonjour l'Afrique. William, je suis en vacances, je suis de retour. Et là, je suis énervé, fâché. On laisse ce message contre la CPI. Parce que c'est la décision qui vient de prendre cette dame-là. La juge là, la gambienne là, Fatou Ben Souda, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut montrer, elle veut nous montrer, elle veut nous démontrer dans son soi-disant travail de juriste. Elle fait appel contre l'acquittement de Laurent Gbagbo. Donc finalement, à quoi joue le pouvoir de Ouattara et la CPI jusqu'à aujourd'hui contre Laurent Gbagbo et Charles Blegoudi? Le monsieur a été acquitté. On l'a lui a reproché de rien. On l'a incarcéré pendant des années pour rien. Il est resté à la CPI pour rien. On lui a fait passer du temps. Et voilà cette dame qui vient encore faire appel contre cet acquittement. Il faut qu'elle nous prouve pourquoi elle a fait appel. Parce que pour moi, c'est un jeu politique qui est là. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui ne veut pas voir les autres se positionner en 2020 pour cette élection présidentielle. Il continue de jouer les jeux avec des juges corrompus de la FPI pour préparer la route à tout le monde. Alors on va voir déjà que c'est un grand champion qui est le poids politique de ce pays, la Côte d'Ivoire. Et voilà le jeu qui se joue.
Bonjour Africa Radio, je voudrais d'abord laisser mon message concernant la décision de la CPI, de la présidente de la Cour internationale concernant M. Laurent Gbagbo et M. Blégoudé. Moi, personnellement, je me réjouis. Je me réjouis parce que j'étais très inquiet, je me posais des questions s'il n'y a pas eu de mort en Côte d'Ivoire. On pouvait se poser des questions, où est qui faire en ce moment, où est le général Gay en ce moment, où est le directeur de l'hôtel qui a été enlevé à Abidjan, où se trouve-t-il le bombardement des troupes françaises, chacun a son français d'après M. Blégoudé, chacun a son français, les tontons Makoute d'Abidjan, chaque matin on se réveillait, il y avait un cadavre dans la rue, à l'époque où les rebelles étaient encore dans le nord. Donc il n'y a pas eu de morts en Côte d'Ivoire. Et cela, l'Afrique devrait continuer comme cela. Mais comme je le disais la fois dernière, c'est la faute à M. Ouattara lui-même. Parce que quand il y a la guerre, il faut tuer pour ne pas se faire tuer. L'exemple de M. Savimbi en Angola. Si M. Savimbi n'était pas éliminé jusqu'à présent, la guerre continuait. Lui-même, M. Ouattara, on l'a vu à la télévision escalader sa barrière, la barrière de sa parcelle pour enjamber dans la parcelle de l'ambassadeur de l'Allemagne.
Oui, JDA, c'est Véran. Donc, je disais que, n'est-ce pas, dans l'appel qu'elle a fait, Mme Fatou Bensouda, vu, n'est-ce pas, le transfèrement de M. Gbagbo même à la Haye, on devait s'attendre à cela. Voilà. Parce que ce transfèrement, vous vous rappelez bien, mais il n'y a pas de la démontrer, ça s'est fait dans toute illégalité. Voilà. Donc, c'est le contraire, mais que nous aurait tourné. Mais comme je dis toujours, je dis cette femme, franchement, je suis désolé de le dire, hein, voilà, c'est cette démarche malhonnête que tu dénonces. Parce qu'elle avait jusqu'à vendredi, et puis elle nous a dit, attendez 3 jours. Mais attendez 3 jours pour faire quoi? Attendez lundi. Elle demande qu'on on lui fasse une rallonge de 3 jours. Sachant bien qu'elle va faire appel. Mais tu as demandé 3 jours là pourquoi? J'en sais rien.
Bonjour Africa Radio. La procureure de la CPI a fait appel de la décision des juges à propos du président Gbagbo et de M. Charles Blégoudé. C'est un sujet qui déchaîne les passions et tout le monde se sent directement ou indirectement touché par cette actualité-là. C'est très bien ceux qui parlent de procès politique. Vu les éléments, oui, ils n'ont pas vraiment totalement tort. Mais par contre, je suggère à tout le monde de se calmer et de comprendre que ce procès engage l'avenir de la CPI, l'avenir et la crédibilité de la CPI. L'avenir de la CPI dépendra de sa poursuite, de la poursuite ou non des autres camps, à savoir le camp Soro et le camp Ouattara. Et ces autres camps-là devront aussi répondre, tout comme M. Gbagbo, qui a dû répondre à plusieurs reprises. Ces deux autres camps devront aussi répondre, surtout de la provenance des armes qui ont crépité en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont commencé à tirer en premier, si je ne me trompe pas. Donc, l'avenir de la CPI dépend justement de ce procès. Si la CPI sera prise au sérieux dans l'avenir, si elle va continuer à exister, ça dépendra des autres camps. Donc, calmons-nous ceux qui crient au procès politique, calmons-nous, c'est pas encore le moment de crier au procès politique. C'est quand les autres ne seront pas poursuivis que nous pouvons crier au procès politique. Je vous remercie, bonne journée.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Nous parlerons demain, bien sûr, de cet appel de la procureure de la Cour pénale internationale contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé. Mais aujourd'hui, dans le JDA, on parle de la gestion des ressources pétrolières et gazières au Sénégal, voire de la gestion des ressources naturelles en général. Comment éviter le syndrome hollandais? Nous en parlons avec Issiaka Barry, membre de la plateforme Arlie Nouboc en France. Issiaka Barry, bonjour.
Bonjour, madame.
Merci d'être avec nous, Issiaka. Alors, vous avez publié un mémorandum à l'adresse de Macky Sall. Dans ce mémorandum, votre plateforme dénonce la violation de la résolution 1803 du 14 décembre 1962 des Nations Unies qui porte sur la souveraineté des ressources naturelles. Ma première question sera celle-ci, Issiaka Barry, qu'on comprenne bien. En quoi, selon vous, cette résolution a été violée?
Ben, la résolution, bonjour, d'abord je dis allez. Bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Mmh. Et pour enchaîner sur votre question, effectivement, Macky Sall et son gouvernement ont violé la résolution 1803 du 14 décembre 1962. À savoir, cette résolution, en fait, met en elle favorise les populations. Les populations, là où il y a les ressources. C'est-à-dire, quand vous avez un pays et que vous avez des ressources, cette résolution dit que il faut s'occuper d'abord de ces populations, d'accord, avant de toute façon, quand vous devez...
Qu'on soit bien clair, Issiaka Barry, je vais vous aider un petit peu. Ce que dit la résolution, c'est que finalement, la gestion des ressources naturelles doit profiter au peuple.
C'est ça.
Qui est souverain sur la gestion de ses ressources. Alors, selon vous, Macky Sall a-t-il violé cette résolution?
Parce que Macky Sall, normalement, devait informer le peuple par le biais de l'Assemblée nationale, normal, ce qui est normal. La gestion pétrolière et gazier, Macky Sall l'a violé parce que il avait demandé, quand il est arrivé au pouvoir, parce qu'il y avait un précédent. Le précédent, c'était l'ancien régime qu'il avait engagé des négociations avec d'autres compagnies. Et quand il est arrivé, lui, il a demandé à l'IGE, l'Inspection Générale de l'État, de regarder de près s'il y avait des anomalies. Entre-temps, quand l'IGE a commencé son travail, à savoir que l'Inspection Générale de l'État est logée au Palais de la République, c'est-à-dire, entre le bureau de Macky Sall et l'IGE, ça fait à peu près 80 mètres, 85 mètres. Donc, l'IGE, quand il travaille pour le président de la République, il est informé au jour le jour de l'évolution. Donc, on lui a bien expliqué que cette négociation n'était pas à la faveur du Sénégal. Donc, ce qu'il faut faire, il faut rectifier les choses, d'accord, et mettre l'intérêt du Sénégal en avant.
On a bien compris, qu'on soit bien clair, mais tout le monde l'aura compris. Si à Kabari, vous faites aussi référence à ce documentaire de la BBC, dans lequel on accuse Aliou Sall, le frère du président, d'avoir touché des pots de vin, environ 250 000 $, dans un contrat d'attribution de deux champs pétroliers gaziers. Et dans cette même enquête, on fait référence au rapport de l'IGE, l'Institut Général d'État, auquel vous faites
l'inspection, référence. L'inspection générale.
Merci. Pardon, excusez-moi. Voilà. L'inspection générale d'État dans laquelle il aurait été souligné que finalement l'attribution de ces champs pétroliers et gaziers ces champs pétroliers et gaziers n'avaient pas été attribués à la meilleure société. Une enquête, Issiaka Barry, a été ouverte au Sénégal, justement, alors pour faire la lumière sur ce rapport dont tout le monde parle, mais que finalement, voilà, on dit qu'il a disparu. Est-ce que vous ne faites pas confiance à la justice sénégalaise pour faire la lumière, justement, sur cette question?
La justice sénégalaise, est-ce que le Sénégal a justice? C'est cette question-là qu'il faut poser. Est-ce que le Sénégal a une justice? Il y a des hommes de valeur, hein. Il y a des hommes de valeur, mais quand on sait que les membres du Conseil constitutionnel qui sont capables de transformer un avis à une décision, on peut se poser la question, est-ce que cette justice-là, elle est là pour les Sénégalais? Avec tous les dérives, un procureur qui s'autosaisit soi-disant, et qui dit qu'en fait, la mosquée, elle est là, celui qui peut prendre la place de l'imam, il le prend. C'est-à-dire, il y a un accusé, il y a quelqu'un qui a été accusé, d'accord, impliqué dans les trafics. Cette personne-là, elle est bien nommée et identifiée. Normalement, qu'est-ce qu'il devait faire le procureur? Est-ce qu'il devait dire, celui qui a quelque chose à dire, peut venir dire? Non.
Il a ouvert, il a lancé un appel à témoins. Finalement, vous aurez préféré que le procureur convoque Aliou Sall. On rappelle que d'ailleurs, face à ce scandale, Aliou Sall a démissionné fin juin de la présidence de la Caisse des dépôts et des consignations. Restez à l'écoute ici à Kabari. On va aller du côté du Sénégal demander l'avis des auditeurs 33 1 55 07 58 00. On va retrouver Abdourahman. Abdourahman, bonjour.
Et bonjour madame, vous allez bien?
Bonjour Abdourahman, ça va très bien. Et vous, vous êtes toujours à Thiès, Abdourahman?
Présentement, oui, je suis à Thiès, je vis à Dakar.
Voilà. Abdourahman, alors quel regard portez-vous sur cette plateforme Arlie Nouboc, qui a essayé de mobiliser vendredi, notamment à Dakar, mais ils n'étaient pas nombreux à Dakar à se mobiliser. Vous pensez qu'il faut tourner la page de cette affaire à Aliou Sall?
Oui, c'est ce que je pense parce que, de ma part, c'est une récupération politique. Le moment où l'intéressé a démissionné et le président a saisi la justice de prendre le dossier en main et de faire enquête, le gisement a demandé à tous ceux qui connaissent quelque chose sur ce dossier et prié de se présenter devant lui pour expliquer, mais jusqu'à présent, personne d'entre eux ne s'est présenté devant le juge pour expliquer. Et alors, nous sommes au Sénégal, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tout le monde essaie de faire une récupération politique. Et alors que ce n'était pas une bonne chose de ma part, parce que certains disaient comme c'est le jeune frère du président, bon, etc. Mais il a réussi, il a fini par démissionner, et alors le président a autorisé la justice à faire son travail. Il devrait attendre le résultat de l'enquête pour pouvoir se manifester et dire autre chose, madame.
C'est très clair, Abdourahman. Merci beaucoup, Abdourahman. Issa Kabari, vous entendez Abdourahman finalement qui dit voilà, une enquête a été ouverte, Aliou Sall a démissionné. Bon, maintenant, attendons que la justice passe. Et Abdourahman parle de récupération politique. Alors, derrière votre plateforme, Arlie Nouboc, il y a Ndaye Fatou Ndiaye Diop Blondin, ancienne ministre, mais aussi Ousmane Sonko, je crois, du PASTEF.
Oui, en fait, Abdourahman, moi je ne voudrais pas rentrer dans les polémiques parce que moi je suis un Sénégalais et digne d'être Sénégalais. Moi quand je parle du Sénégal, je vois le drapeau vert, jaune, rouge avec l'étoile au milieu. Je suis ancien sportif de basket, je suis ancien basketteur international. Ce drapeau-là, je l'ai porté, je sais ce que ça veut dire, le drapeau. D'accord? Quand, dans aucun pays au monde, parce que là, il parle d'Aliou Sall et de sa démission. Moi, je vais commencer dès le début. Aliou Sall, en 2012, personne ne le connaissait au Sénégal. Populairement, il n'était pas populaire. Aliou Sall, en 2014, il est devenu maire de Guédiouaï. Dans la foulée, il est devenu le président des maires du Sénégal. D'accord? Après, il a ouvert une société, Sahel Aviation. Il a ouvert une banque de Dakar. Il a mis 100 milliards dessus. Et il est devenu le responsable des caisses de dépôt et des consignations. Dites-moi, madame, dans quel pays au monde, d'accord, vous allez voir un frère du président d'une république, d'accord, arriver à faire ça en 5 ans, c'est-à-dire être maire d'une ville, président des maires de tous les Sénégalais.
Est-ce qu'on peut souligner, Issa Kabari, que Aliou Sall était quand même engagé aux côtés d'Abdoulaye Wade aussi au début des années 2000?
Donc non, il est
pas nouveau en politique.
Non, mais je parle pas je ne dis pas qu'il est nouveau en politique. Je dis simplement les postes de responsabilité qu'il a eus. Jamais Aliou Sall ne pouvait accéder à ces postes-là si son frère n'était pas président de la République. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Il n'y a que dans ces pays-là qu'on peut voir ça.
Et quand Abdourahman dit finalement, voilà, c'est de l'opposition, je cherche des sujets pour faire de la récupération politique. Oui,
mais, d'accord, il peut dire ce qu'il veut, parce que les gens qui n'ont pas d'argument. Parce que nous, la scène politique sénégalaise est devenue est différente maintenant. Parce qu'aujourd'hui, les gens se battent sur des débats d'idées. C'est-à-dire, le combat, il est, c'est sur les idées, comment on développe le pays. Et quand on les appelle sur ce terrain, ils n'ont pas d'argument. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de battre en brèche pour dire que c'est une récupération politique. Mais ça veut dire quoi? Mais même dans votre propre maison, il y a une politique à mettre. Tout est politique.
Bien sûr.
Au vrai sens, parce que quand vous avez une maison, vous êtes censé mettre une politique de gouvernance. D'accord? c'est comme ça aussi, c'est comme un État. Macky Sall, on lui a donné notre État, d'accord, pour que la population sénégalaise puisse souvenir aux besoins de leurs ressources, pour que ces ressources-là puissent être au bénéfice des citoyens sénégalais. Mais, madame, donnez-moi une minute. Le Sénégal, il y a 16 millions d'habitants. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui combien de salariés il y a au Sénégal? Une idée, donnez une idée.
C'est vous l'invité, il ne faut pas me piéger ici à Cabaret, vous m'arrangerez, puis on va aller vite, il y a d'autres auditeurs qui vont remercier Abdourahmane d'ailleurs.
Je vais vous dire, au Sénégal, il y a 16 millions d'habitants, il y a moins de 400 000 salariés au Sénégal, public privé.
Dans le secteur formel, ici à Cabaret, c'est bien ça?
Non, écoutez-moi bien. Je vous dis, il y a moins de 400 000 salariés publics privés au Sénégal. Mmh. Le nombre de fonctionnaires au Sénégal aujourd'hui, c'est 127 130. Le nombre de fonctionnaires.
Donc, vous venez où ici à Cabaret?
Je veux dire que ces gens qui sont au pouvoir ne travaillent pas. Bon. Depuis 1965, c'est-à-dire tous les gouvernements successifs, ils n'ont créé 153 emplois dans la fonction publique de 1965 à nos jours. Mmh. Tout le reste, c'est des mensonges. Aujourd'hui,
finalement, on comprend bien ici à Cabaret, votre mouvement dépasse la question la gestion des ressources. On voit aussi, on entend, c'est ce que vous venez de dire, il y a des questions aussi de gouvernance. Alors, on va demander à Olivier et Abdoulaye ce qu'ils en pensent. Restez à l'écoute ici à Cabaret. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour Olivier. Vous avez entendu parler du mouvement Arlene Newbock?
Oui, en fait...
Vous pensez que c'est une bonne initiative?
En fait, je vous prends en cours là parce que je n'écoutais pas. Mais je vais porter mon avis de ce qu'on appelle sur le problème. Je pense que cette situation a provoqué la démission des responsables, j'oublie son nom, qui s'occupait de ce qu'on appelle de donner des marchés dans ce...
Dans la caisse des dépôts et consignations d'Aliou Sall, d'émission d'Aliou Sall, c'est ce que vous vouliez dire?
Voilà. Mm-hmm. Et franchement, il faut que le peuple africain arrête d'être fainéant et paresseux. Et quand les responsables courageux disent des choses, il faut que le peuple se lève et dise non, on ne peut plus continuer, il faut qu'il y ait un investissement et tout. Mais jamais, c'est ça qui fait aussi que les politiciens, ils ont peur de prendre des résolutions, parce qu'ils savent que le peuple va les abandonner. Il faut que le peuple se lève, tout a été dit.
Voilà. Je ne comprends pas, Olivier, j'allais vous dire, ça se voit que vous n'avez pas écouté juste avant. J'ai pas bien compris, Olivier, ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que finalement, vous dites qu'il faut plutôt saluer la démission d'Aliou Sall, si je comprends bien.
Ah oui, bien sûr, il faut la saluer. C'est un homme courageux. Il a traduit le peuple à son aisance financière. Donc voilà.
Il a quoi?
Il faut maintenant que le peuple suive.
D'accord. Bon. Merci, Olivier. Merci beaucoup. On va écouter Abdoulaye 33-1-55, si vous. 07-58-00, si vous souhaitez participer. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Stéphanie, vous allez bien?
Ça va bien Abdoulaye, je rouspétais aujourd'hui dans la rédaction en disant que vous n'appeliez plus le JDA. Voilà.
Ah, j'appelle ça y est, aujourd'hui j'ai appelé.
Merci Abdoulaye, bienvenue dans le JDA. Vous êtes d'accord avec... vous soutenez-vous la démarche de la plateforme Arlene Newbock?
Ah oui, tout à fait, c'est un acte qu'il faut saluer. Des gens braves qui se battent sans rien attendre des personnes. Mm. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour le tout au nom du peuple. Mm. Moi, en tout cas, je me retrouve dedans. Mm. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe au pays parce que, tout simplement, le gouvernement qui est là en ce moment, ils font ce qu'ils veulent du peuple. Personne ne bouge. Personne ne bouge au Sénégal. Mm. Je ne sais même pas s'il y a une opposition maintenant. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Celui qui parle, on te met en prison. Et l'argent du pétrole, personne ne sait comment ça se passe. Même à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Assemblée? L'Assemblée, c'est qui est là-bas? Il n'y a personne. Tout ce que Macky Sall décide aujourd'hui, c'est ce qui se fait du Sénégal. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a personne qui peut le contredire, à part ces gens qui sont vraiment courageux. Voilà, je les soutiens tout à fait.
Bah merci Abdoulaye, je pense qu'ici à Cabaret a entendu, je vous souhaite une excellente journée. Abdoulaye, merci beaucoup. Ici à Cabaret, vous avez entendu Abdoulaye qui dit finalement voilà, on n'a plus d'opposition au Sénégal. Est-ce que votre mouvement a aussi cette vocation-là?
Il n'y a plus d'opposition, si, il y a de l'opposition, mais les gens ne veulent pas écouter en fait la réalité. C'est-à-dire ceux qui veulent travailler dans l'intérêt général, je peux citer Ousmane Sonko.
Pour vous, le PASTEF est le parti d'opposition aujourd'hui au Sénégal, ici à Cabaret?
Ben, de ce qu'on voit, de ce qu'on
position
voit...
Position que Roumi, Didier Sassek, revendique.
Non, de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, le seul parti d'opposition aujourd'hui, c'est parce que c'est les patriotes du Sénégal. À l'image de son leader, Ousmane Sonko. Parce que depuis...
C'est arrivé que troisième élection présidentielle.
Oui, mais... Non, mais on sait que les élections commencent, comment il s'est déroulé. Madame, vous ne pouvez pas, dans un pays, dire que, c'est-à-dire un ministre de l'Intérieur ou un président, décide qu'un citoyen ne doit pas voter. C'est ce qui s'est passé. Ou décide de dire que ce citoyen-là ne peut pas voter dans son lieu de domicile, dans son département ou dans son quartier, parce qu'il a été transféré ailleurs. Dans aucun pays au monde, on peut dire à un citoyen que vous n'avez pas le droit de voter. Mais c'est ce que Macky Sall a fait, son gouvernement. Ça, c'est illégal. C'est du vol. Heureusement que le président Sonko a un peu de retenue. Parce que si le président Sonko avait demandé aux jeunes de sortir, le pays, c'est catastrophique.
Justement, ici à Cabaret, on arrive, il vous reste une minute, je vais vous poser une dernière question, il reste une minute. Force est de constater que l'appel à manifester vendredi n'a pas été beaucoup suivi, en tout cas à Dakar. Est-ce que finalement, votre mouvement se fait contre l'opinion, je le dis un peu contre l'opinion, en tout cas, il a du mal à être soutenu?
Non, pas du tout, pas du tout. C'est ce que les gens veulent faire croire, d'accord? C'est ce que les gens veulent faire croire, mais Aaron Ibok est dans une dynamique, d'accord, progressive. Il est dans une dynamique progressive. Les gens veulent noyer le poisson, c'est-à-dire ils allument des contre-feux. Mais madame, je vais vous dire, si vous me permettez, Macky Sall dit qu'en fait, il a saisi l'année sociale. Il met 10,5 milliards sur la PRODAC, domaine communautaire. D'accord? Il met 65 milliards pour la bourse familiale, soi-disant, c'est pour 300 000 familles. Et 104 milliards pour l'emploi des jeunes et des femmes. Ça fait au total 187 milliards. D'accord? Moi, je lui dis à Macky Sall, s'il prend avec 10 milliards, il peut créer 18 000 emplois, 250 par année. Avec 10 milliards. Donc, il faut qu'il nous dise, ces 187 milliards-là sont partis où? Parce que la bourse familiale, il dit 100 000 francs par famille. Et par année. Ça veut dire qu'en fait, 25 000 francs par trimestre et 250 francs jour. 270 jours.
Vous voulez faire le grand ménage, si j'ai bien compris, ici à Cabaret, un peu, dans la gestion des ressources, qu'elles soient naturelles ou financières, du Sénégal. Vous entendez ici à Cabaret, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je rappelle que vous êtes membre de la plateforme Arlene Newbock. Bonne journée à vous ici à Cabaret. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux. Demain, nous reviendrons sur la Cour pénale internationale. En attendant, prenez soin de vous. À demain.